On part en mer dans ce journal pour parler de remorqueurs et de pêcheurs. On ira à Bora Bora, un autre sommet de la francophonie et puis de la danse et du feu. Ce sera en fin d'édition. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Un fait divers pour commencer avec cette nouvelle attaque de chien.
Oui, ça s'est passé hier à Bora Bora et c'était NTV qui a eu l'info ce matin. Une femme âgée de 82 ans a été attaquée par une petite meute de chiens alors qu'elle se promenait dans le district de Fahanoui. Les quatre animaux l'ont mordu à la tête, au cou, aux bras et aux jambes. Et ce sont les riverains qui sont intervenus pour faire fuir les chiens. L'octogénaire, elle a été évacuée vers le Taoné où elle est actuellement prise en charge. Du côté de la gendarmerie, une enquête a bien sûr été ouverte pour déterminer d'éventuelles responsabilités. Alors je vous le rappelle, il y a une semaine à peine, les propriétaires des chiens ayant mortellement attaqué une autre octogénaire en 2020 à Piret avaient été condamnés à des peines de prison avec sursis. Le parquet a fait appel de cette décision, la jugeant trop clémente.
Les autorités avaient aussi les yeux rivés sur la passe de Papeete ce matin.
Oui, à cause de ce porte-conteneur de plus de 260 mètres, le Cap Jervis qui était bloqué à l'extérieur du port depuis mercredi. Le navire battant pavillon singapourien n'a pas subi d'avarie. C'est un des remorqueurs qui devait l'escorter à travers la passe de Papeete qui est en panne, le Aitonui 2. Alors comme l'avait expliqué Polynésie la Première hier, la capitainerie se creusait la tête pour trouver une solution pour l'amener à quai et décharger ses précieuses marchandises, dont beaucoup de produits frais. Le MEDEF avait même interpellé les autorités sur l'urgence de la situation et c'est donc la Marine Nationale qui est venue à la rescousse ce matin en mobilisant ses propres remorqueurs, normalement destinés à guider les bateaux militaires. Après deux tentatives avortées à cause des mauvaises conditions de houle, le Cap Jervis a finalement pu faire son entrée dans la rade de Papeete. Il y a quelques minutes. C'est donc une autre course contre la montre qui démarre puisque les équipes portuaires doivent se presser pour effectuer les opérations de déchargement et de chargement. Selon le MEDEF, 700 manœuvres sont nécessaires et le porte-conteneur doit impérativement reprendre la mer demain soir.
Toujours côté mer, les pêcheurs hauturiers sont prêts à se mobiliser.
Et même prêts à partir en grève, la CSTPFO et Otahi ont déposé des préavis chez trois des plus importants armateurs du pays, Vini Vini, Ocean Product et Wild Tahitian Tuna, trois sociétés dont les salariés sont appelés à arrêter le travail de façon illimitée à partir de mercredi. Et pourtant, les syndicats n'ont pas de reproches à adresser au patron qui semble même soutenir le mouvement. Le but, c'est plutôt d'interpeller le pays sur sa stratégie, car si Moët & Brotherson a affirmé qu'il voulait tripler l'effort de pêche dans la ZEE, il avance aussi dans des projets de restriction des zones de pêche qui seraient, d'après les sociétés, dommageables pour l'activité. Elle demande aussi, au travers des syndicats, donc, la mise en place de défiscalisation exceptionnelle, une meilleure protection des professionnels et un dialogue plus régulier au sein du secteur. D'autres pêcheurs, hauturiers mais aussi côtiers cette fois, avaient déjà annoncé une mobilisation pour mardi prochain, la veille de cette grève. Une manifestation nautique est prévue à l'entrée du port de Papeete.
On ouvre une page politique avec ce vent de réforme qui va souffler sur la santé.
Oui, des réformes annoncées hier sur notre plateau. Cédric Mercadal, qui était l'invité de la rédaction. Et ces réformes, elles concernent notamment les régimes de protection sociale. Le ministre de la Santé l'a dit hier et l'a répété ce matin en conférence de presse. Il veut remettre les gens dans les bonnes cases. Le régime de solidarité, par exemple, sera réservé aux personnes inactives et sans ressources, à l'exclusion de toutes celles qui ont une petite activité, qui seront rebasculées vers le régime des non-salariés, le RNS, quitte à ce que le pays prenne en charge leurs cotisations maladie pour les plus bas revenus, explique le ministre, qui l'assure, il y a des avantages à basculer du régime de solidarité à celui des non-salariés.
Vous pourrez passer au RNS sans payer vos cotisations dès lors que vous gagnez moins de 87 346 francs, comme aujourd'hui. Mais le gros avantage, c'est que vous pourrez bénéficier d'indemnités journalières quand vous cassez une jambe. Et vous pourrez avoir un salaire de substitution que vous n'avez pas aujourd'hui quand vous êtes au RSPH.
Voilà une mesure qui va coûter 600 millions de francs tout de même par an au pays et ce sera financé par des économies réalisées par ailleurs, assure le ministre. Autre grande mesure, mettre fin à la primauté du RGS. Alors aujourd'hui, les personnes salariées avec une activité complémentaire peuvent cotiser seulement sur leur activité salariée et non pas à cotiser sur leur activité patentée. Le ministre veut que ces personnes cotisent désormais sur tout. Rien de bien nouveau puisque le texte existe déjà depuis 2022 mais les arrêtés n'avaient jamais été pris. Selon le ministre, 9000 personnes sont dans cette situation, soit des recettes estimées à 2 voire 3 milliards de francs. Il est aussi question de transformation des hôpitaux, les faire passer d'établissements publics administratifs, appelés EPA par le ministre, à établissements publics de santé.
Ça permet plus de flexibilité dans l'octroi des budgets, dans le recrutement des gens et dans la vision budgétaire que l'on aura sur nos établissements. C'est un système qui existe depuis 20 ans en métropole et ce qui a permis de faire évoluer les hôpitaux publics. Aujourd'hui, nous, on est resté sur un vieux système d'EPA. Les dépenses, elles sont bloquées jusqu'à octobre. Et qu'est-ce qui se passe? On fait des provisions pour payer l'année d'après, alors que les soins sont toute l'année. Ça sera plus simple, plus orthodoxe, mais là, on ne parle que de la vision budgétaire. Ça permet une vraie modularité des contrats de travail.
Voilà, les travaux sont en cours avec le ministère de la fonction publique. Cédric Mercadal doit aussi discuter avec l'État. Il s'envole même à Paris ce soir pour négocier la prochaine convention santé. Son objectif, c'est d'obtenir une convention quinquennale plutôt que triennale et une participation de l'État aux 1,7 milliard de francs que coûtent annuellement les Evazan Interil au nom de la continuité territoriale. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview sur notre page Facebook et certains résumés sur notre site radio1.pf.
Et la politique, c'est aussi ses grands préparatifs. Ceux des Jeux du Pacifique 2027.
Oui, ça paraît loin, mais ça se rapproche. Le compte à rebours des 1000 jours avant la compétition sera lancé à la fin du mois. Une page Facebook dédiée Road to Tahiti 2027 a même été lancée par le pays qui veut commencer à mobiliser le public. Mais du côté des sportifs, on sent plutôt de l'inquiétude. Des grands stades aux infrastructures associatives, les chantiers de ces Jeux n'ont toujours pas démarré. Alors pourquoi s'inquiéter puisque les compétitions démarrent dans plus de 2 ans et demi? Les explications de Veitia Reperer.
Et si la question anime les conversations à 2 ans et demi, des Jeux, c'est parce que le PGC avait insisté sur la nécessité de livrer les équipements en 2026. Un calendrier qui semblait alors parfaitement convenir aux représentants du COJ ou du Comité olympique de Polynésie, puisque des stades et des salles prêtes un an avant les Jeux, c'est se prémunir contre les retards et autres malfaçons, mais c'est aussi donner l'opportunité aux athlètes du pays de se les approprier pour conserver l'avantage de ces Jeux à domicile. Le pays ne semblait à l'époque pas d'un avis différent, surtout qu'en 2026 doivent être organiser à Tahiti les Jeux de Polynésie qui gagneraient bien sûr à se tenir sur les installations définitives.
Voilà, alors cette date butoir de 2026 sera-t-elle respectée? Eh bien rien n'est moins sûr. On écoute la ministre des Sports, Naïma Temari.
L'ensemble des infrastructures vont être livrées pour 2027, ça c'est certain. Maintenant, compte tenu du retard pris de 2 ans et demi au moment où on récupère le dossier, donc au moment de notre nomination, évidemment on ne sera pas au rendez-vous sur tous les chantiers pour 2026. C'est humainement improbable. Donc, il va falloir composer avec et il va falloir s'adapter en 2020.
Voilà, Naïma Temari qui explique que les études sont bien lancées et qu'elles étaient nécessaires pour cadrer les chantiers. On parle notamment de la nouvelle piste d'athlétisme au format olympique qui doit être construite à Itia ou encore l'installation de bassins éphémères de natation qui n'ont pas été encore commandés. On parle aussi de la réfection de Pater ou du stade de Fatawa et de nombreuses installations privées de Feipi, Excelsior, JT ou Vénus. Bref, les premiers coups de pelle sont très attendus sur les sites sportifs de Tahiti.
Un petit mot sur ce sommet à Paris, Charlie.
Oui, le sommet de la francophonie organisée à Villers-Cotterêts, la ville même où François Ier avait pris l'ordonnance imposant le français à tout le royaume, c'était en 1539. Voilà pour la petite page d'histoire. Aujourd'hui, Emmanuel Macron y a invité tous les membres de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Ils sont 88 États et régions et Moëté Brozorson est aussi présent. La Polynésie voudrait en effet devenir membre de droit de cette organisation. Cette candidature sera étudiée le 5 octobre, ce samedi donc, par l'Assemblée plénière de l'OIF, mais ce sera à Paris, sous la grande voûte du Grand Palais. On aura l'occasion d'en reparler.
Et on termine par des spectacles qui vont mettre le feu.
Et oui, 2 concours de danse du feu se préparent. Le premier, Tehaitoa, est prévu ce samedi au Marae de Paea. Deuxième édition de ce concours, lancé par Tamatea Andy Colberry, qui espère susciter des vocations auprès des plus jeunes. Alors vous pouvez trouver des places pour ce concours sur notre site ticketpacifique.pf et puis à l'accueil de vos radios ici à Fareute. Le deuxième concours, il s'appelle Siva Afi Tahiti. Il sera un petit peu plus tard, le 30 novembre. Cette fois, il s'agit d'intégrer la Polynésie au circuit international du Siva Afi, une pratique ancestrale originaire des îles Samoa qui se répand dans tout le Pacifique. On écoute Tumata Veraroa, renseignante de Ori Tahiti et professionnelle de la discipline, à l'origine de cet événement.
On met en avant en fait cette culture parce que c'est aussi la nôtre. Nous dansons avec le feu, nous ne dansons pas avec des couteaux, mais c'est important qu'on puisse relier en fait nos cultures. Le fait de faire venir cette compétition ici, on pourra mieux découvrir leur pays, mieux découvrir notre histoire et le Pacifique. C'est mon but également pour ceux de Tahiti qui puissent s'intéresser en fait à cette culture, que ça soit Samoan, que ça soit la culture hawaïenne, le hula, etc. Hein, c'est pour moi c'est la même chose. Hein. C'est nous quoi.
Voilà, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 octobre pour cette étape du circuit mondial SIFA AFI qui aura lieu 30 novembre, je vous le répète. Et je vous le répète aussi, les tickets pour assister à la soirée Teahitoa de ce samedi au Marae de Paea sont disponibles sur ticketspacifique.pf, un site sur lequel vous pouvez retrouver d'autres billets pour ce week-end. Le grand événement, c'est bien sûr samedi soir au Grand Théâtre avec Thomas Marty, que vous avez entendu sur nos antennes, l'humoriste Thomas Marty. Puis il y a aussi un spectacle qui est prévu dans les jardins du musée de Tahiti, si je dis pas de bêtises, et c'est ça avec Vincent Dedienne qui était aussi de passage sur notre plateau il y a quelques jours, et ça se passe vendredi, samedi et dimanche. Tout ça c'est à retrouver sur ticketspacifique.pf. Voilà, c'est la fin de ce journal, merci beaucoup de l'avoir suivi, et on vous retrouve pour l'information à 16h bien sûr, ce sera pour le Flash.
Merci beaucoup Charlie, on passe à la météo sur Radio 1, restez bien avec